Avant de commencer, j'aurais une question. Vous savez pourquoi que le Seigneur vous a régénéré ? Il vous a régénéré. Vous le savez ? Pour sa gloire, pour la louange de sa gloire. Amen.
Voilà, on ne s'est pas concerté parce qu'on a eu très peu de temps, Didier part toute la semaine, donc voilà. Moi, je vais rester toute simple, je fais confiance au Saint-Esprit, voilà. La présentation, je m'appelle Sylvie, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'ai 50 ans. Donc, je vais vous témoigner de ma naissance, mais déjà la naissance, comment je suis arrivée. Disons que ma maman l'a été renversée par une voiture, donc maman elle a eu une césarienne et moi j'étais en difficulté respiratoire et tout, donc on m'a dû me transporter en urgence sur Paris. Et là, il n'y avait plus d'espoir pour moi dans le sens que on avait téléphoné à mes parents en disant que c'était la fin. Et je suis toujours là, j'ai 50 ans et je suis toujours là. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai eu une mère nourricière et pendant 2 mois et demi, j'ai eu beaucoup de soins intensifs. Et je suis revenue chez mes parents au bout de 2 mois et demi. Et là, effectivement, j'avais du mal à prendre du poids. Je faisais 1,1 kg. Et mon grand-père, qui était catholique, est venu à la maison. Et voilà, moi, je suis catholique aujourd'hui. Et il m'a baignée dans l'eau bénite, comme on dit. Il a dit, elle vivra. Donc, je suis toujours là. Donc, voilà. Et j'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 6 ans, déjà dans mon cœur, j'avais l'amour pour Jésus. Je ne savais pas d'où ça venait, pourquoi. Et j'ai pleuré, j'ai demandé à mes parents de pouvoir aller au catéchisme à l'âge de 6 ans. Donc c'était toute une affaire d'État parce que mon père était communiste. Donc ce n'était pas facile pour lui. Mais maman a accepté de m'emmener voir une dame. Et pendant 6 ans, j'ai fait du catéchisme. Et vraiment, j'avais vraiment cet amour pour Jésus. Et déjà à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma communion, ma confirmation. J'ai été voir mon papa, et bien sûr, il était toujours communiste, et je lui ai demandé pour me marier avec Jésus. Je voulais être sœur. Et mon père, ça a été difficile pour lui. Il a dit, voilà, regarde comment t'as rendu ma fille, elle veut se marier avec Jésus. Ici, à la maison, c'est pas comme ça, tu verras plus tard. Donc, il m'a dit, maintenant, t'as fait ta communion et ta confirmation, on en arrête là. Si tu vas aller à l'église, t'iras à Noël comme une tradition. Comme tout le monde, j'ai fait mon petit bout de chemin, et j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais j'ai commencé à prier à l'âge de 9-10 ans. Ma mère, elle est devenue alcoolique. Certainement, je lui ai pardonné parce que Jésus a mis en moi l'amour pour mes parents. Et même encore hier soir, je pensais à eux. Je m'étais dit, je comprends pourquoi ma mère, elle s'est mise à boire. Parce que mon papa, il trompait ma maman. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai vu mon papa demander pardon à ma maman parce qu'il était en Belgique, il avait été drogué. Il ne savait plus d'où il venait, mon père. Donc, dans l'enfantement, déjà dans le ventre de ma mère, j'ai déjà eu cette vision de mes parents du pardon. Donc, voilà, j'ai perdu le fil. Donc, j'ai perdu mon fil, voilà. Donc, voilà. Donc, à l'âge de 9 ans, ma maman, elle a commencé à boire, mais à boire tous les jours. Donc, c'était difficile. Donc, j'avais un petit frère de 6 ans qu'il fallait s'occuper. Donc, pour pas que mon papa tape ma mère, il a fallu que je devienne une maman à la maison avec mes frères et sœurs. Et tous les soirs, j'avais peur. Et tous les soirs, à ce moment-là, comme j'allais au catéchisme, j'ai prié le Seigneur pour que ma mère soit guérie de l'alcoolisme. Tous les jours, tous les soirs, je me voyais au bout de mon lit et je me mettais à genoux. Je disais, Seigneur, guéris ma maman, guéris ma maman. Et c'est vrai qu'on voit rien. On se dit, elle boira toute sa vie, c'est sûr. Donc j'ai continué comme ça, donc j'ai rencontré mon époux, Didier, je me souviens toujours, j'étais une petite coureuse, une fois j'ai rencontré Didier et quand je l'ai vu, je savais qu'il serait mon mari. J'ai eu de l'amour tout de suite pour lui, j'en étais, comme encore aujourd'hui, amoureuse, donc j'ai eu le coup de foudre. Donc, je lui ai donné 3 rendez-vous, dont les 2 premiers, il n'est pas venu. Et le troisième, il est venu. C'est vrai que ça serait trop long à expliquer, mais voilà, c'est moi qui a couru après mon époux. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'était pas facile de lui expliquer que ma mère buvait. Donc, au départ, quand on est avec le Seigneur, j'avais toujours cette foi en moi. Il y a le mensonge. Et je lui avais dit, ma maman, elle prend beaucoup de médicaments, tu sais. Mais il avait très bien compris que ma mère buvait. Donc, c'était pas facile parce que des fois, c'était les 2 en même temps, les week-ends, tout ça. Mais je les ai toujours aimés. Je m'étais dit, Et bon, bah, on s'est mariés. Et le jour de mon mariage, ma mère, elle est venue à la fin de la messe. Et je m'en souviendrai toujours. Et sur le coup, je ne l'ai pas cru. Elle est venue, elle m'a dit les mots que je vais vous dire. Je t'ai pourri toute ta vie. Je t'ai pourri toute ton enfance. J'ai jamais pu avoir des copains et des copines venir à la maison parce que c'est terrible, quelqu'un qui boit. Vous êtes obligé de mentir, cacher, pour pas être à la scène publique, surtout parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient venus nous voir pour nous placer. Et elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus. Et tout de suite, j'ai pensé à Jésus, j'ai tout de suite regardé la croix. Je savais que le Seigneur, le jour de mon mariage, avait guéri ma mère. Donc elle a été guérie de l'alcoolisme. Pour quelqu'un qui buvait 12, 13 canettes par jour, des litres de vin, c'était pas possible. Sans médicaments, c'est impossible. C'est vraiment le Seigneur qui avait là guéri ma mère. Mais bon, j'avais pas l'esprit saint, mais j'étais déjà sous la coupe du Seigneur, déjà. Donc on s'est mariés. Donc voilà. Donc on a mené notre petit bout de chemin. Et c'est vrai que moi, j'étais pas pressée d'avoir des enfants. J'avais tellement vécu une vie difficile que je ne voulais pas d'enfants. J'avais dit, je voulais beaucoup d'argent, je voulais travailler, gagner beaucoup d'argent à la force mes bras. Je n'avais pas fait d'études. J'ai fait mes études après quand je me suis mariée. Donc un petit CAP d'emploi de bureau. Et j'ai trouvé du travail. Et puis c'est Didier qui m'a dit, bah oui, mais ça serait bien quand même qu'on ait au moins un enfant. Bon, je me suis laissée envahir par son amour. Donc on a eu Julien, notre premier fils qui a 27 ans. Donc c'est à travers lui que j'ai rencontré le Seigneur. Donc ça fait 26 ans que je suis avec Jésus. Et Julien, quand j'ai eu Julien à la fin de ma grossesse, j'ai eu 35 heures de travail. Ça veut dire pendant 35 heures, ils ne se sont pas aperçus que j'avais pas de passage pour pouvoir accoucher. C'est au bout de la 35e heure qu'ils m'ont fait une césarienne en urgence. Donc là, j'ai failli mourir et j'ai fait une grosse dépression pendant à peu près un an, où j'ai voulu même me suicider, parce que je faisais de la dépression, j'étais pas bien, et je savais pas d'où ça venait. Mais c'est certainement dû à ce que j'avais en moi. Avant de rencontrer le Seigneur, mes parents faisaient de l'occultisme, surtout ma mère. Elle pratiquait les cartes, et mon grand-père faisait apparaître sur des murs blancs ceux qui étaient décédés, quoi. Donc j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et à l'intérieur de moi, mon grand-père m'avait choisi, puisque c'était mon parrain et ma grand-mère ma marraine. Il fallait toujours donner ce qu'ils avaient reçu dans l'occultisme à une personne. Donc c'était moi qu'on avait choisi. Je savais lire dans les cartes, je savais lire dans les pensées des personnes et même donner la maladie. Pourquoi ? Voilà, je m'en étais rendu compte. Donc je faisais les cartes facilement, je disais aux personnes ce qu'il leur arrivait. Puis voilà. Donc Julien, il a été élevé par dans la famille. Et puis il fallait absolument une nourrice pour Julien, parce qu'on avait perdu celle qui venait à domicile, on l'avait perdue, parce qu'en fait je voulais ce qui était le meilleur pour mon enfant, je voulais quelqu'un à domicile, et puis ça s'est arrêté. Donc on a été voir une personne, on a eu qu'un seul coup de téléphone, et quand je suis arrivée chez elle, elle n'avait pas de travail, elle connaissait Jésus, elle était chrétienne, et elle n'avait pas de salaire, son mari l'avait abandonnée, et moi j'arrivais avec un enfant qui était toujours habillé en blanc, en clayeux, je voulais le meilleur pour mon fils, j'en voulais qu'un. Et elle est arrivée, j'étais très touchée d'elle, c'est qu'elle avait une grosse croix en bois, et elle m'a dit, je suis chrétienne, je crois en Jésus, sachez que votre enfant, il arrive dans une maison chrétienne. Moi qui avais des bases catholiques, mais j'avais tout arrêté, je m'étais dit, il sera peut-être bien, on va essayer un mois, deux mois, on verra bien. Et donc j'ai mis Julien, donc j'étais une personne qui travaillait beaucoup, hein, j'avais des responsabilités, comme je remplaçais le chef, donc j'avais très peu de temps pour Julien, et Julien pleurait pour rester chez elle, donc j'ai été touchée de l'amour. Son amour. Et tous les soirs, elle me bénissait au nom de Jésus. Elle disait que Dieu te bénisse ou ça. Alors je disais à Didier, écoute, je crois qu'elle est dans une secte, il va falloir arrêter parce que je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Je pense que cette personne, elle n'est pas tout à fait normale et tout. Donc on s'était dit, avant d'enlever l'enfant, on va aller voir ce qu'elle vit. On va accepter une invitation aux hommes d'affaires du Pénévangile. Donc j'ai demandé à Didier qui ne parlait pas du tout, qui n'ouvrait pas la bouche. C'est moi qui parlais toujours pour lui, comme aujourd'hui. Mais il va reprendre le micro après. On a été aux hommes d'affaires du plein évangile, et là, ils ont témoigné de l'amour de Jésus. Moi, j'étais touchée, mais je ne voulais pas, parce que je savais que ça allait m'engager. Donc, c'est Didier qui a été touché de l'amour de Jésus, ça, il va vous expliquer. Il a été touché, mais moi, je ne pouvais pas. Pourquoi ? Parce que, comme à l'intérieur de moi, il y avait de l'occultisme, des choses qui ne pouvaient pas, fallait que ça soit une libération du Seigneur. Donc, j'ai suivi Didier avec lui à Lens. On allait à Lens avec le père René Jacob. Donc je le suivais, mais j'étais toujours au fond de l'église, en train de me moquer d'eux, enfin, toutes les choses. Je disais, c'est pas possible, un jour il va s'arrêter, tout ça. Et puis une fois, j'étais poussée par le Seigneur devant, et le Seigneur m'a totalement libérée de l'occultisme. Mais complètement, complètement. J'ai pleuré pendant des heures. Moi qui étais très fière, il fallait toujours que ça soit impeccable. Là, j'ai pleuré devant une salle complète, et vraiment, j'étais libérée du Seigneur. Donc dans cette libération du Seigneur, j'ai rencontré personnellement le Seigneur. Donc on a marché tout doucement pour aller à Lens et tout ça. Et j'ai eu dans le cœur d'avoir un deuxième enfant. Moi qui ne voulais pas d'enfant du tout, j'ai accepté un deuxième enfant. Donc Mathieu est né. Donc on marche avec le Seigneur. Ça, c'est vrai que quand on est avec le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. Et on se dit qu'il ne va rien nous arriver. Mais il faut savoir que le Seigneur est toujours près de nous et que le Seigneur permet les situations. Donc Mathieu, il est né. Et au bout de son deuxième mois, il était malade. Et un matin, je lui ai donné son biberon et j'ai senti que ça n'allait pas. Donc j'ai téléphoné à ma tante, j'ai dit, écoute, j'ai téléphoné d'abord au médecin et je lui ai dit, voilà, Mathieu, j'ai l'impression qu'il respire mal. Il m'a dit, vous savez, c'est une petite machine, ça va se remettre, faut pas vous inquiéter comme ça, ça fait déjà 3 fois que je viens, on commencera peut-être à l'antibiotique. Et j'ai vraiment senti dans le cœur de l'emmener à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, il était mort, il ne respirait plus du tout. Et le chirurgien qui me l'a pris, il m'a dit, écoutez, normalement, on n'a pas le droit parce que c'est natal, c'est des enfants qui sortent du ventre de la mère et on va vous le prendre. Et il m'a dit, écoutez, il lui reste 48 heures, on ne peut pas dire s'il va rester en vie ou pas. Donc, on a beaucoup prié avec le groupe de prière et le Seigneur m'a dit, il va continuer à vivre. Et je savais que le Seigneur mettait sa main sur cet enfant. Donc, pendant 8 mois, 9 mois, il a dû dormir dans un relax. Et le Seigneur l'a complètement remis tout ce qu'il fallait, quoi. Mais il a fallu qu'aussi, de notre côté, on puisse le soigner, quoi. Donc lui, ça a été à peu près, maintenant il va très bien, il a 23 ans. Nous avons eu, moi je ne pensais plus avoir d'autres enfants, donc on a fait la méthode biline qui marche très bien, puisque j'ai eu 4 enfants. Donc on a mis en pratique ça, mais je pense qu'avec le Seigneur tout doucement, il met dans notre cœur cet amour pour avoir ce que lui il a envie de nous donner. Donc on a eu Jean-Baptiste. Notre troisième fils, Jean-Baptiste, donc voilà. Donc ça s'est très bien passé, on continue à marcher avec Jésus, avec les 3 enfants. On allait à droite, à gauche, on faisait des nuits de prière et vraiment on enseignait nos enfants dans la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste, à l'âge de 6 ans, il a commencé à boiter. Donc j'avais été voir le médecin et puis j'avais demandé, il m'avait dit que c'est une ostéochondrite, on va d'abord l'appareiller. Donc c'est une maladie où la hanche, elle se met mal. Donc on lui a laissé le libre choix, est-ce qu'il devait être plâtré pendant 1 an ou alors marcher avec un appareil. Lui, il a choisi un appareil de décharge. Mais Jean-Baptiste était un enfant plein d'amour, plein de joie. Il priait tout le temps puisque il avait soif de la parole de Dieu et c'était vraiment un enfant rempli d'amour. Et quand on nous annonçait que sa jambe, elle se mettait mal en place, il fallait l'opérer. Donc on a accepté, on lui a demandé, il avait 7 ans et demi, c'était un enfant qui était vraiment équilibré et il avait choisi son opération, sa date d'opération, son choix d'opération. Et moi, comme j'avais commencé à être nourrice agréée, donc je devais commencer à travailler avec eux. On avait décidé que je reprenne ce travail parce que financièrement c'était plus difficile. Et je m'étais dit, ça serait bien de retravailler. Mais entre fait, on a eu Timothée, j'ai oublié mon petit Timothée qui est né, mais Timothée n'a jamais eu de soucis jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est toujours bien passé avec Timothée. Donc on a eu un 4e fils. Mais entre deux, donc cette opération de Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste soit opéré, j'ai reçu dans mon sommeil un songe et je savais que Jean-Baptiste allait partir. Mais ça, c'est le cœur d'une maman. On s'est dit, avec une opération, c'est vrai, j'avais peur qu'il parte. Qui meurt à l'hôpital. Et j'ai vraiment reçu du Seigneur son enterrement. C'est des bancs fleuris, des camions de fleurs, parce que comme il était allergique, on ne pouvait avoir ni chien ni fleurs à la maison. Il avait des grosses allergies. Et j'ai reçu vraiment tout ce qui allait se dérouler. Donc au matin, j'ai dit à Didier, tu sais, j'ai rêvé que Jean-Baptiste allait partir, qu'il allait mourir. Donc ça s'est passé du jeudi dans la nuit. Donc du vendredi, je lui raconte, mais dis non, c'est ta tête, tu sais. On est avec Jésus, le Seigneur va le protéger, il va passer une opération, ça va bien se passer. Donc j'avais effacé ça de ma tête, mais c'était bien un songe, puisque le dimanche matin, on a été appelé par l'hôpital, et ils nous ont dit, voilà, il a fait un arrêt cardiaque, on l'a réanimé, il vous attend. Jean-Baptiste va très mal. Donc moi, je cours à l'hôpital, bien sûr, pensant qu'il était encore vivant. Ils ne vont pas nous dire qu'il est décédé. Donc quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai dit, ben non, il est comme une maman, moi je l'embrasse, il est là. Il m'a dit, salut madame, il est parti. Ben, je dis, non, il n'est pas parti, il est là. Comme une maman, il m'a dit, mais non, mais il est décédé. Donc là, ça a été... je ne peux pas vous dire, j'ai été habitée par une grâce. On se dit, mais comment on peut faire pour perdre un enfant? C'est pas possible. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous aider. C'est ça que je veux vraiment témoigner. Jésus a mis, au moment où je l'ai embrassé, j'ai senti une grâce du Seigneur descendre sur moi, une habitation de Dieu, pour pouvoir accepter qu'il soit parti. Et là, j'ai été habitée pendant 2 mois. Ça veut dire tout le temps de la préparation du départ, d'accepter. Et seulement après, le Seigneur a permis que je fasse mon deuil. Et là, donc, Mais c'est vrai qu'on dit, mais mince, moi j'ai entendu autour de moi, mais mince, ils sont chrétiens, mais pourquoi Dieu permet des choses comme ça? C'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu nous confie des enfants. Moi qui n'en voulais pas du tout, 4 enfants, le Seigneur nous confie des enfants, mais il en fait ce qu'il veut, ça lui appartient. Donc voilà. Donc j'ai accepté le départ de Jean. Aujourd'hui, je vais très bien. Bon, je l'aime encore, hein, c'est normal, hein, il fait partie de notre vie. Mais j'ai vraiment reçu la grâce du Seigneur d'accepter qu'il soit parti. Donc voilà. Il faut savoir qu'entre deux, ben, quand j'ai travaillé dans mon entreprise, je suis passée chef. Donc je voulais gagner beaucoup d'argent, donc je suis passée chef. Et j'avais demandé la prière du soir et le Seigneur m'a dit de rester toute petite. Parce que là où je travaillais, j'évangélisais, on chantait, on priait. Beaucoup sont venus voir Jésus, beaucoup ont demandé la prière. Beaucoup de gens ont venu et beaucoup de gens ont arrêté. Mais le Seigneur voulait que je reste toute petite. Donc voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur, à travers Jean, quand nous avons eu la naissance de Jean, le Seigneur m'a montré que ma place était à la maison et que lui, je devais l'élever. Et je le remercie aujourd'hui parce qu'il est parti. Si je ne l'avais pas élevé, si je n'avais pas obéi au Seigneur, je n'aurais pas eu cette joie de pouvoir m'en occuper pendant 7 ans et demi. C'est beaucoup pour une maman d'avoir eu son enfant pendant 7 ans et demi. Bon, il est toujours là. Je sais qu'il est toujours là, que... Moi, je sais que je vais le retrouver, puisque quand on a cette foi de l'amour de Jésus, on n'est pas éternel, on va partir. Et je remercie Dieu de m'avoir donné... Oui, on est éternel, mais d'avoir eu 4 fils. Voilà. Aujourd'hui, ben, c'est vrai que des fois, j'y pense et je me dis, bon, j'aurais pu en avoir encore d'autres. Hein. Mais non, bon, Seigneur, aujourd'hui, je suis nounou. Hein, j'élève plein de petits. Je suis contente parce qu'il me donne des filles. Hein, j'ai 4 garçons, donc ça a aussi le plaisir, la joie d'avoir des petites filles à la maison. Et puis voilà, j'espère que le Seigneur nous donnera des petits-enfants. Voilà. J'espère que ça a été...
Et moi, ça va être autre chose. Hein. Je vais vous parler de ma conception par mes parents et la conception de Dieu, qui est pour moi la prédestination ou le plan ou le dessein divin. Aujourd'hui, je vous témoigne aujourd'hui quoi, l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ pour ma vie, en parallèle avec les Écritures. Car l'Écriture ordonne de ne rien ajouter ni retrancher de la parole. C'est écrit dans Deutéronome 4:2. Le serviteur de Christ est donc l'intendant des mystères de Dieu. Il se doit d'y être fidèle. Il incombe en outre à vous, auditeurs, de comparer avec cette parole de Dieu tout ce qui est dit et affirmé. Tout ce que je vais vous dire, je vous le demande de le comparer avec la parole. Vous devez le faire, car bientôt nous aurons, d'ailleurs dans la parole est écrit qu'il y aura l'église apostate. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très clair que ce sera une église qui sera plus fondée sur la parole. Ça sera plus fondée sur Christ. Jean-Louis nous en a encore dit dimanche dernier. Il est important d'être fondé sur la parole, pour la gloire du Christ, pour la gloire du Père. Ça, c'est l'essentiel. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à mon témoignage, c'est que vous puissiez vraiment voir Christ dans toute sa gloire. Rien pour moi. Moi, je suis un instrument... inutile. Rien. Mais, à travers ce témoignage, je vais vous révéler un petit peu comment le Seigneur a agi, comment il a fait. Mon père, âgé de 24 ans, se maria à ma mère, alors âgée de 16 ans. Elle était jeune. Mais en même temps, elle vivait des choses difficiles, parce que je pense, elle ne nous l'a pas dit clairement, mais il paraît-il qu'elle l'a écrit, et le jour où elle partira, on aura cette lettre, et je pense qu'elle a vécu l'inceste. Et mon père, pour la protéger, l'a pris sous son aile. Mais le lendemain de son mariage, il partait pour l'Algérie. Vous voyez un petit peu les situations difficiles pour une femme de 16 ans. Qui est pour moi, aujourd'hui, qui a 16 ans, un an de moins que Timothée, qui a 17 ans. À 17 ans, ma mère mit au monde mon frère aîné le 7 juin 1957. Et moi, j'arrive à ses 18 ans le 27 juin 1958. Ce fut une erreur pour moi. Car je suis le fruit d'une gitane qui a lu les lignes de la main de mon père. Elle lui a dit qu'il n'y aurait plus jamais d'enfants. En réalité, il y en a eu 4. Cette femme lui a coûté le prix d'une poule et ma conception. Alors, je ne fus pas désiré par ma mère. Ce fut un mécontentement total de se savoir encore enceinte. Mes parents n'avaient pas grand-chose pour vivre. Mon père était ouvrier agricole. Ma mère ne travaillait pas. Pas de confort, pas le confort d'aujourd'hui, et surtout pas de machine à laver le linge. En ce temps-là, il n'y avait pas de couches, mais des langes. Il fallait aller au lavoir pour laver le linge, les langes. Et imaginez une jeune femme de 18 ans avec 2 enfants sur les bras, c'était pas chose facile. Donc ma mère a tout fait pour essayer de me perdre naturellement en faisant les travaux les plus durs. Elle a même accepté un emploi tel que d'aller biner les betteraves dans les champs, en étant enceinte, en espérant me perdre. Donc vous voyez un petit peu le contexte, j'en veux pas à ma mère, hein. Je la bénis et je demande au Seigneur vraiment de se révéler à elle. Mais à cette naissance, qui n'était pas voulue de ma mère, mais j'arrive, et elle me prénomme Didier. Vous savez ce que ça veut dire Didier ? Désiré. Didier veut dire désiré. J'étais pas désiré par ma mère, mais par Dieu. Avec le recul, aujourd'hui, on peut dire que c'était le plan de Dieu. J'étais désiré par Dieu. Ma mère ne savait pas ce que voulait dire Didier, donc. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il lui a inspiré. Du mal et du fardeau que j'étais pour ma mère, Dieu l'a transformé à sa gloire. Dans le psaume 22:10, il est écrit « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Je ne le savais pas, forcément. Ma mère ne le savait pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec l'œuvre de Dieu sur ma vie, je dis oui, c'était Dieu, c'était la main de Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est écrit dans le psaume 115:3, Deutéronome 4:35. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez écrire les notes et puis vérifier justement sur la parole de Dieu, si c'est vrai. Mais je crois qu'on pourra voir sur le site l'enseignement que Jacques aura soin d'appliquer. L'homme a tout faire ici. D'ailleurs, on demande demain... bienveillante pour lui, pour le décharger un peu, parce qu'il commence à s'écrouler sur les œuvres. Mais bon, le Seigneur lui donne la grâce. Et merci Seigneur pour son œuvre sur lui. Tu as donc été éclairé pour savoir ce que le Seigneur, Yahvé ou Jéhovah, ici c'est YHWH, qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui, car Dieu est le dispensateur de toutes choses, des biens et des maux. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2010, mais le 6 juin 1944, la France fut libérée par les Américains. C'est-à-dire, c'était le débarquement. Et si vous regardez bien les documentaires non pas les films, mais les documentaires qui montrent un petit peu le débarquement des Américains, eh ben, les gens témoignent que vraiment, il y a des circonstances où vraiment c'était Dieu qui conduisait ce débarquement. Il mettait tout en œuvre pour que ce pays soit libéré des puissances nazies, des puissances des ténèbres. Mais malheureusement, il y aura encore d'autres souffrances. Il y aura encore d'autres guerres. Et on n'aura plus la liberté de pouvoir annoncer l'Évangile comme aujourd'hui. C'est écrit. Et Dieu, ce qui a été écrit dès la fondation du monde, ça ira comme c'est écrit. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais mettez votre espérance en Jésus-Christ seul. Et c'est lui qui a la grâce de toutes choses et qui nous donnera la force de pouvoir. Car notre vie n'est pas ici-bas. Nous sommes ici qu'un temps de pèlerinage. Notre gloire est dans sa gloire. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir, le plaisir de Dieu. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » C'est écrit dans Matthieu 11, 25, je n'invente rien. À qui le Fils décide de le révéler. Et l'on peut dire que toute l'Écriture affirme d'une part la souveraineté sans condition de la volonté de Dieu. L'initiative divine toujours unilatérale. C'est lui qui révèle, c'est lui qui manifeste. Et vous êtes les instruments de Dieu pour annoncer l'Évangile. Car par l'annonce de l'Évangile, des cœurs s'ouvriront parce que la foi vient par l'annonce. Et la foi est donnée de Dieu. Celui qui reçoit la foi, c'est parce que c'est Dieu lui donne. Une vie non régénérée, une dépravation totale de ma vie, ou pécheur impénitent. Je fus baptisé à la maternité, même à 3 jours de ma naissance. Et aussi consacré à Marie. Malgré ces actions de la part de mes parents et de l'Église catholique, je n'étais pas pour autant meilleur que les autres. J'aimais faire le bien autour de moi, mais aussi je faisais le mal. J'ai eu un enseignement catéchiste catho, je fus enfant de cœur, mais pour autant le péché me collait à la peau, et je péchais comme si je m'abreuvais en eau. C'était monnaie courante. Car il est écrit en Job 15, 14, 16, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins d'être abominable et pervers l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau ?» Lorsque j'allais à la confesse, je ne disais pas toute la vérité. Mes prières de pénitence n'étaient faites qu'à moitié. La seule chose que j'aimais à l'église, c'était mon service d'enfant de cœur, au baptême et au mariage, parce que je recevais un peu d'argent. Eh oui, les enfants de cœur, au mariage et puis au baptême, c'est là que les gens donnaient une petite pièce. Les enterrements, j'aimais pas trop. En fait, ils donnaient rien. Mais j'étais en admiration devant de tels hommes par rapport à la parole. Les apôtres, quand ils disaient que l'un était guéri, l'autre libéré, devant cela j'étais en admiration. Mais dans ma vie, c'était le mensonge. J'aimais m'enfuir dans mes pensées. C'était là mon refuge continuellement. Mais dans ces rêves, je me mentais. En réalité, j'étais le contraire de ce dont je rêvais. Ah oui. Quand on rêve, quand on pense, on est le super-héros, on est l'homme fort. Puis en réalité, on est un vermisseau. L'école n'était pas une réussite et l'instituteur du village où j'habitais voulait me garder dans sa classe. Car à lui seul, il faisait la classe de CE2, CM1 et CM2. Et je ne suis jamais allé en CM2. Je suis allé en 6e transition directe. La classe des nuls. D'ailleurs, si mon fils il serait là, il dit « Oh, 6e, c'est pas, mais c'est des nuls !» Il le dit. Eh bien, on y était tous les deux. Nous sommes de la classe des nuls. Gloire à Dieu ! Le Seigneur nous a libérés de tout ça. Alors, lorsque je suis arrivé dans cette classe, une bonne partie de mes rêves se sont effondrés. Le professeur, pour nous aider à y voir plus clair, il nous disait que nous étions les rebuts de la société, la misère noire et rien de bon en nous. C'est ce qu'il disait notre professeur. En y réfléchissant bien, avec du recul, le professeur avait raison. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais par rapport à ces dires, pendant 2 semaines, j'ai pleuré sur mon lit. De me savoir que j'étais un bon à rien. Donc j'ai tout quitté, l'église. J'avais alors 13 ans. Ensuite, le lycée professionnel, et j'ai appris le métier de soudeur. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, jamais j'étais chef de bande, mais j'étais le second. Et c'est le pire. C'est le pire parce que c'est celui qui va pousser le premier à faire les bêtises. C'est celui qui va manipuler et qui va inspirer des mauvaises choses. Et c'est vrai que souvent, et même par les grands et les plus forts, j'étais pris sous leurs ailes. Mais Dieu m'en a gardé, j'ai jamais touché à la drogue, j'ai jamais fait de choses très mauvaises, seulement simples, des petites bêtises, quoi. Mais dans une petite bande. À 17 ans, je commence ma vie professionnelle comme soudeur dans une fabrique de métallurgie. À 18 ans, je rencontre Sylvie, mon épouse, ma bien-aimée. Oui, elle m'avait vu, ça y est, j'étais sous son emprise. Mais c'est une bonne emprise. À 19 ans, une année de service militaire. Je peux dire qu'au service militaire... Non, Seigneur, je ne vais pas le dire, tout pour ta gloire, c'est pas pour ma gloire. À 21 ans, nous nous sommes mariés. Nous nous aimions vraiment. Mais au fil du temps, nous avions beaucoup de mal à nous supporter l'un l'autre. Souvent, nous nous disputions. Ben oui, l'amour a besoin d'être là. Mais s'il n'y a pas de fondement, ben l'amour, si on ne tisse pas cet amour, eh ben, il s'étouffe. Ça s'éteint. Donc, n'ayant pas la joie de rentrer chez moi à cause des disputes et surtout incapable d'aimer mon épouse comme il se devait, vous savez comment l'homme doit aimer son épouse? Vous le savez? Comme Christ a aimé l'Église. Il était évident qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas aimer ma femme comme Christ. Je ne pouvais pas me sacrifier pour elle. Non, j'avais besoin, moi, à régner un petit peu. Et non. Dieu nous demande d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, forcément, je m'enfouillais à nouveau dans mes pensées, dans mes rêves et le travail. Je commençais à 6h du matin, je rentrais à 10h du soir. Je partais avec 76 positions, 76 clients sur la Somme. Et je les livrais, mon patron était content. Ah oui, j'étais un bon... Mais pas pour Dieu, mais pour lui, pour son intérêt. À 24 ans, notre premier fils Julien arrive. Jusqu'à maintenant, la vie que je menais était sans Dieu. Comme il est écrit dans Romains 3:11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En moi, il y avait une certaine crainte de Dieu, mais je péchais. Je ne cherchais pas Dieu, j'étais égaré. J'étais pécheur, impénitent. J'étais corrompu, En fait, j'étais comme Lazare dans son tombeau. J'étais mort et pourri. Lazare, il sentait déjà. Je vous révèle ici encore que toute l'espèce humaine est sous la culpabilité du péché, comme un fardeau est sous le gouvernement et l'autorité du péché, comme lui étant asservi pour agir dans la méchanceté. Ceci est clairement exposé par plusieurs passages de l'Écriture de l'Ancien Testament qui décrivent l'état corrompu et pécheur de tous les hommes en Adam. Adam a eu des fils à sa ressemblance et non plus tel qu'il était avant la chute lorsqu'il était en communion avec Dieu, à son image. Adam fut créé à l'image de Dieu, mais ses fils, ils étaient à l'image d'Adam. Plus comme Dieu. Donc en Adam, nous sommes tous coupés de la grâce, spirituellement coupés de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous en garde parce que Dieu, il vient. Tous les hommes naissent morts spirituellement jusqu'à ce que la grâce les retienne ou les change en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Et par Jésus-Christ, nous recevons la vie. La mort n'y existe plus. Selon le bon plaisir de sa volonté qui est écrit dans Éphésiens 1:5. Jean 3:36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Psaume 51:6. Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui dit cela. Et nous sommes tous, à cause d'Adam, nous naissons dans la faute et nous naissons dans le péché, à cause d'Adam. Mais Dieu appelle efficacement. Les mots vocation et appel viennent du verbe grec kaleo, qui signifie appeler, faire venir, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu appelle, c'est-à-dire attire ses enfants à le suivre. Romains 8, 29-30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29, 30. 2 Timothée 1:9. Qui nous a sauvés? Qui nous a adressé un saint appel? Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, le peuple d'Israël a été, par appel, le peuple de Dieu. La seule et unique nourrice, qui nous répond justement à la recherche pour notre fils Julien sur les quins, nous annonce continuellement que Jésus est vivant. Aujourd'hui encore, il se révèle. Alors j'étais dans mon coin, et j'écoutais sans rien dire. D'ailleurs, ma femme le dit, je ne disais jamais rien. J'étais mal à l'aise, car le péché me condamnait. Il y a la loi de Dieu dans nos cœurs. Et j'étais sous la condamnation. Et un jour, cette nourrice nous invite donc à un petit déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Nous acceptons cette invitation. C'était Hubert Trabouillet, l'orateur principal. Il témoigne de sa vie avant Jésus, sa conversion et de sa vie en Jésus. En fait, tout ce qu'il disait vivre en Jésus, c'était exactement ce que je cherchais. La vérité. La vérité avec soi-même et la vérité avec les autres. Ne plus me cacher à travers le mensonge. Ne plus me cacher dans mes pensées et dans mes rêves. Ne plus fuir. Mais vivre la vérité. Par son témoignage, je réalise qu'il est possible de vivre la vérité. Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, il est le seul. » Comme à chaque fin de témoignage chez les hommes d'affaires du plein évangile, ils font un appel. Si ce témoignage vous parle ou vous a touché, je vous invite à vous approcher. J'étais là, sur ma chaise, gêné et complexé, parce que avec ce professeur et puis tout le, et puis avec cette comment dire, ce refus, ce rejet de ma mère, j'étais bridé. Bridé par tout ce qui était qui pouvait me libérer dans le sens d'être avoir la liberté du partage, de pouvoir dire ce que je, tout ce que je pouvais, je pensais, mais j'étais enfermé sur moi-même. Et à cause de toutes ces choses, eh ben, j'étais complexé. Je me disais en moi-même, mais si j'avance, je vais avoir l'air de quoi ? Mais en même temps, je me disais, je ne suis pas resté insensible. Sans cesse, je n'ai eu que des frissons. Et ils m'ont traversé le corps. À ce moment-là, une force en moi-même me pousse à me lever, à aller de l'avant. Je n'osais même plus regarder à droite ni à gauche. Mais j'étais là devant, tout tremblant avec plein de choses qui me passent par la tête. Deux hommes arrivent vers moi et ils me disent, « Veux-tu recevoir Jésus-Christ ?» Je les regarde. Et je leur dis, s'il existe, oui. Était-il question de moi ici, d'un acte de foi ou d'une acceptation? Non. Je réponds, s'il existe, c'est pas de la foi ça, c'est du doute. J'étais pas fondé, forcément, puisque j'étais mort. Un mort ne peut pas vivre. Alors, je réponds, s'il existe, je ne pouvais rien prétendre en quoi que ce soit, puisque nous ne pouvons plaire à Dieu que par la foi, qu'on est aimé de Dieu que par la foi. Voyez-vous, à ce moment-là, je ne confesse pas une foi, mais un doute, s'il existe. Par Jésus, Dieu met en exécution le plan ou le dessein du salut, d'une élection inconditionnelle envers l'homme pécheur qu'il s'est choisi et qu'il a élu. C'est la foi de Jésus-Christ qui m'a prévalu le privilège de ce droit exclusif, de ce qu'il a accompli pour son peuple. C'est écrit dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la foi de Christ pour moi, mais pas ma foi. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Christ, par Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jésus ne fut donné par Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est souverainement que Dieu appelle par le moyen de la prédication de l'Évangile qui est folie pour le monde, mais grâce pour ceux qui la reçoivent et qui croient. À ce moment-là, avec les hommes d'affaires du plein Évangile, le plan de Dieu par Christ se réalise. Je reçois la vie. Je sors de ce restaurant transformé, transfiguré. J'avais un amour pour tout, tout ce qui était autour de moi. Les arbres, les oiseaux, même les maisons, les tout. Les gens, pour mon épouse, c'était incroyable. J'avais une compassion pour tout, transformé. Un cœur changé, révélé. J'avais la vie. Donc Jésus me fait sortir de mon tombeau à l'exemple de Lazare. Il est devenu mon rédempteur. Il a expié mon péché. Donc l'expiation particulière qui est faite dans le tout est accompli. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. De Christ à la croix pour les élus de son, ou son peuple, juifs et non-juifs, pécheurs ici des nations non-juives. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et en Jean 10, 26, Jésus dit à d'autres, à présent, d'autres personnes qui étaient là, Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Christ a acquis l'Église par son sang. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, l'Église. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Bon, je crois que je vais raccourcir sur mon témoignage. Alors donc, l'œuvre de Dieu que vous croyez est celui qui l'a envoyé. Je vais raccourcir. Alors, ce jour-là, ce fut aussi une conversion immédiate. Sorti du restaurant, on me prête une cassette de Réginbald. Et ce jour même, à l'appartement, donc j'écoute cette cassette, cet enseignement d'un homme d'église catholique au Canada, sur les messages subliminaux sur certaines chansons, surtout dans les chants du rock'n'roll. Après avoir écouté son enseignement, je casse tous mes disques. C'était des chansons de rock'n'roll genre Iron Maiden, Rolling Stone, Pink Floyd, Elvis Presley. Et ma femme, n'ayant pas reçu le jour la même grâce, me dit « Non, arrête, ne fais pas cela. On va les donner à mon frère. » Et je lui dis « Mais si cela n'est pas bon pour nous, ce n'est certainement pas bon pour ton frère. » J'étais même surpris de m'entendre dire cela. Je venais en opposition pour la première fois à ma femme. Et ça, c'est une grâce. Et nous nous débarrassons aussi des livres impurs. Étant dans le monde, forcément, toutes nos inspirations n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc tout ce qui était impur, on a tout jeté. Et toujours le même jour, à ce moment-là, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Des brunes. Donc je regarde une cigarette que j'étais en train de fumer. Et je me disais à voix haute, ça aussi, ça doit disparaître. Ayant rejoint le groupe de chrétiens que participait la nourrice de notre fils Aléquin, je demande la prière pour être libéré de cette emprise du tabac. Depuis, je ne fume plus. Par Jésus et la force du Saint-Esprit, je gravis le chemin de la montagne de la grâce, de la persévérance des saints. Au fur et à mesure que le Seigneur me montrait les choses à changer, je lui demandais son aide ou l'aide des frères et sœurs du groupe de chrétiens dans une communion fraternelle et d'amour, le regard fixé sur Jésus. Dieu désire la sincérité de cœur. Jésus mène ses brebis au changement de cap. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Là où se trouve la vérité, Dieu donne la sagesse. Ceux qui recherchent instamment et sincèrement cette voie seront encouragés. Ils ne pourront espérer être rendus semblables à Christ que par la grâce divine, qui seule peut transformer notre nature corrompue. Si vous cherchez à vous changer vous-même par vos propres forces, vous allez ramer. Hein. Mais moi, je préfère laisser le Saint-Esprit souffler dans les voiles pour avancer. Parce que si le Seigneur me montre un domaine où je pêche, alors je crie vers lui, je confie ce péché, je lui demande sa grâce pour pouvoir me libérer et me conduire vraiment dans sa gloire. Alors je voudrais dire aussi, dans Pierre, il est écrit à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, c'est dans Pierre 1, le 1 à 9, par la grâce de son Fils Jésus-Christ, nous sommes un peuple séparé de ce monde. Nous n'avons d'attache à ce monde qui va à sa perte. Nous sommes un peuple qui est mis dans l'arche, et l'arche, c'est Christ. Dans le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie et en France, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père dans la consécration de l'Esprit, par l'obéissance à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grâce, sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, nous sommes transportés d'allégresse, quoique nous soyons maintenant un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or, périssable, quoiqu'éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Et c'est vrai que les épreuves, il y en aura. Nous avons vécu l'épreuve de Jean-Baptiste, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que c'est difficile de voir un fils qui nous quitte. On n'est pas préparé à cela, mais Dieu nous donne sa grâce. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je me réjouis. Je me réjouis parce que mon fils était le premier à me réclamer dans la voiture d'avoir une cassette de chant de Dieu qui glorifie Dieu. C'était le premier aussi, quand on allait en magasin, de chanter la gloire de Dieu, à voix haute, à côté des maghrébins, ça ne le gênait pas. Il chantait Christ roi. Ou alors sur la terrasse, il chantait Alléluia. Constamment, notre fils était vraiment en adoration devant Dieu.
C'est qu'une fois, il avait demandé la prière pour être guéri de sa jambe, comme tout enfant, puisqu'on a la lance. Et il est venu me voir 8 jours avant, et puis il avait demandé la prière. Il m'a dit, tu sais maman, je vais te dire quelque chose. Je ne serai pas guéri sur la terre, je serai guéri dans le ciel. Quand le Seigneur va venir me chercher, je serai guéri là où je pourrai courir normalement. Donc vous voyez, donc lui, il était déjà prêt. Et déjà le samedi soir, quand je l'ai quitté à l'hôpital, il m'a dit, maman, je serai toujours près de toi. Je t'aimerai toujours, je serai toujours là. Mais j'ai dit, maman, elle revient demain. Il a dit, non, il faut que tu saches que je t'aimerai toujours, je serai toujours là. Donc lui, ça, Seigneur préparait déjà son chemin.
Et Jean-Baptiste était prêt. Aujourd'hui, mon plus grand souci, c'est mes fils, Julien, Mathieu, Timothée. Une plus grande espérance pour Timothée, parce qu'il est plus docile à la parole, mais sa vie n'est pas régénérée. Et je l'espère, je prie le Seigneur pour ça. Et je prie aussi le Seigneur pour mes deux fils et mes autres fils, car par Julien, le Seigneur nous attire à lui. Et je crois qu'il y a une œuvre glorieuse dans leur cœur. Ils sont déjà humainement, bien sûr, j'aurais dit que c'était seul Jésus-Christ sauve, mais ils sont devenus pompiers. Ils croient que eux peuvent sauver. Mais non, ils en faut. Voilà.